Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlerons de scoutisme, des mouvements scouts, les scouts musulmans de France, toute la genèse de ce mouvement et son intégration globale dans le scoutisme mondial. J'ai plaisir à avoir deux interlocuteurs pour parler de ce sujet. D'abord avec le président des scouts musulmans de France, Abdelhaq Sahli. Bonjour.
Bonjour Aleb.
Et merci de nous faire l'amitié de venir. Et puis vous êtes accompagné de Farid Aitouarab, tout aussi scout et chargé de la communication au sein du mouvement des scouts musulmans de France.
Bonjour Aleb. Bonjour, merci pour l'invitation.
Je vous en prie. C'est un plaisir que de parler et de la fraîcheur de la jeunesse et de cet engagement. D'abord avec les valeurs du scoutisme mondial et de son histoire. Et puis, si vous voulez bien, avec l'un et l'autre, nous parlerons de son inclination, son mariage ou son hybridation avec les valeurs de la spiritualité islamique. Abdelhaq Sahli, vous-même avez commencé scout avant d'en devenir président. Donc c'est, pardonnez-moi le terme, il ne s'agit pas de carrière, mais votre carrière est déjà dans le scoutisme islamique.
Tout à fait, moi j'ai connu les scouts musulmans de France à la création, lorsque le cheikh Bentounes a créé ce mouvement de jeunesse en France en 1990, à la fin des années 90, et avec un lancement officiel en 1991. Un mouvement, je ne connaissais pas du tout le scoutisme où on en entendait parler très peu, ou alors c'était à travers, à l'époque, Gérard Jugnot avec Scout Toujours. Donc, une vision très, très étriquée du scoutisme sur la tenue, le short, le machin, enfin toutes les images qu'on pourrait avoir, toutes les images un peu, encore excusez-moi l'expression, un peu ringardes du scoutisme. Et en fait, très vite, j'ai appris pas mal de choses, notamment dans la relation avec l'autre, le lien avec la nature, le lien. C'est pas juste des valeurs ou des mots qu'on prononce comme ça, c'est vraiment des choses que l'on vit au quotidien.
Farid Aitouarab, vous aussi, votre expérience, votre aventure avec le scoutisme a commencé très tôt.
Il a déjà commencé en Algérie, parce que je suis né en Algérie, j'ai vécu une partie de ma vie en Algérie, et donc j'ai fréquenté un petit peu le scoutisme algérien. Et quand je suis arrivé en France, j'étais engagé au niveau associatif dans plusieurs associations, et j'ai rencontré le scoutisme musulman à travers le Cheikh Khaled Bentounes, et j'étais tout de suite séduit par l'idée, parce que ça rentre dans mes valeurs, de ce que j'aspire. Il intervient sur plusieurs niveaux, sur la jeunesse, sur l'islam de France, et c'est les valeurs qui m'animent, et c'est pour ça que j'essaie de faire connaître, d'apporter mon expérience et mon réseau à cette belle initiative, à cette belle expérience.
Alors, les scouts musulmans de France sont une longue vie derrière eux, c'est déjà un quart de siècle, mais c'est intéressant d'évoquer le scoutisme islamique dès l'Algérie, parce qu'on dit que, pas vraiment le fondateur, mais le guide spirituel du scoutisme islamique en Algérie était le Cheikh Ben Badis, qui était aussi le président de l'association des oulémas algériens. Ouléma est un terme générique pluriel qui veut dire savant, docteur de la loi. Et à ce moment-là, le scoutisme, vous avez évoqué l'histoire du short, du bermuda, de la jupe pour les filles, etc., les questions de la tenue ne se posaient pas, Abdelhaq Sahli.
La tenue, finalement, c'est pour permettre à tout le monde de se reconnaître, de créer une identité ou une unité, je dirais, les uns avec les autres, une fratrie, une fraternité, à travers déjà la tenue extérieure. Ça permet de mettre tout le monde sur le même plan, que ce soit l'ouvrier, le chef d'entreprise, l'enfant de ministre ou l'enfant de paysan ou ce que vous voulez. Donc tout le monde a égale distance finalement d'un projet. Donc l'intérêt de la tenue, elle est là.
Il y a l'égale distance, il y a aussi l'égale dignité de la personne humaine.
Tout à fait.
Et vous qui avez connu, Farid Aïtouarab, le scoutisme islamique en Algérie, j'ai l'air d'en faire une fixation alors que ce n'est pas ça l'important. Les questions du foulard n'étaient qu'autour du cou pour les jeunes demoiselles scouts et n'étaient pas au-dessus de la chevelure.
Tout à fait. Donc il y avait une certaine liberté de porter le foulard justement. C'est ça l'idée justement qu'on essaie d'inculquer aux jeunes, c'est d'avoir le foulard dans la tête mais pas sur la tête. Et c'est l'idée qu'on essaye. Et tu parlais tout à l'heure du scoutisme musulman. C'est vrai qu'on l'associe beaucoup au scoutisme catholique, mais dans le monde entier, il y a plus de 40 millions de scouts. Et plus de 60%, c'est des scouts musulmans. Parce qu'il y a les scouts en Indonésie, il y a les scouts. Donc le scoutisme au niveau mondial, il est musulman.
Du point de vue de la démographie.
Démographie et du nombre, tout à fait. Au niveau de l'ancienneté, c'est vrai qu'il est plus catholique, mais au niveau du nombre actuellement, il est musulman.
Et en France, nous avons aussi les éclaireurs israélites de France, et puis il y a aussi un scoutisme, disons, de facture ou de veine laïque.
Tout à fait. Alors en France, il y a énormément de mouvements scouts, mais très peu sont reconnus par l'État, et encore moins par les organisations mondiales, que sont l'OMMS, l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout, et la MGE, l'Association Mondiale des Guides et Éclaireuses. Les associations qui sont reconnues en France sont au nombre de 5. C'est une fédération, en fait. La Fédération du Scoutisme Français, auquel les scouts musulmans de France font partie. Alors, vous avez les scouts et guides, qui sont catholiques. Les éclaireuses, éclaireurs unionistes, qui sont plutôt protestants. Les éclaireuses, éclaireurs israélites, bon, comme son nom l'indique, qui sont juifs, et les éclaireurs, éclaireuses de France, tout simplement, qui sont la partie, je dirais, qui ne se réfère pas à une tradition, mais qui parle également de spiritualité en tout cas. Et vous avez les scouts musulmans de France. Toutes ces associations, ces 5 associations, sont la fédération du scoutisme français et représentent le scoutisme en France et de France au niveau de l'organisation mondiale. Très récemment, on a accueilli en membres associés les éclaireurs de la nature, qui sont la partie bouddhiste.
Et donc ces 5 associations, plus celles dont vous parlez là un instant, il leur arrive de se réunir, de faire des événements communs, des actions communes?
Oui, oui. On a bien sûr toute l'année, on vit ensemble au niveau du scoutisme et de la Fédération du scoutisme français. Déjà rien qu'au niveau de la gouvernance de ces associations, ils se voient au moins une fois par mois. Vous avez ensuite au niveau local ce qu'on appelle les collèges du SF. Lorsque 3 au moins des associations sont représentées dans une région, une ville, ils peuvent monter un groupe qui s'appelle le collège, où ils font des activités ensemble, ils créent des mini-camps ensemble, ils vivent dans la nature ensemble, ils font des projets ensemble. On a également au niveau national, Vie mon camp. Vie mon camp, c'est des mouvements scouts. Lorsque vous allez en camp d'été, ou dans l'année maintenant, on l'a diversifié aussi dans l'année, vous faites un camp partagé avec une autre association.
Alors, j'imagine que SF, c'est scoutisme français.
Tout à fait, excusez-moi.
Et vie mon camp, c'est le verbe vivre, vie mon propre camp, en quelque sorte.
Oui,
très c'est bien.
C'est la première association de jeunesse en France. Ça représente entre 100 et 120 000 jeunes en France. Donc, c'est la première association de jeunesse. Et la présidence, ce qui est très important, c'est que la présidence, elle est tournante. Tous les 3 ans, il y a une association qui préside cette association, et nous, en 2009, pendant 3 ans, on l'a présidée. Donc on a présidé le scoutisme français pendant 3 ans, ça c'est hyper important, et c'est quelque chose qui est presque unique dans le monde, parce que dans tous les autres pays, c'est des associations, il n'y a pas de fédération. C'est, par exemple, en Angleterre, c'est une association catholique qui a des branches, la branche juive, la branche musulmane, alors que nous, c'est une fédération qui est indépendante et en même temps qui travaille ensemble. Et ça, c'est très important. Et par rapport aux événements, au mois d'août, il y a eu le Roverway aussi qui...
Oui, j'aimerais revenir sur ce que Farid disait, sur cette importance de cette présidence tournante et des rôles au sein de la fédération. Ça permet, en fait, quel que soit le nombre d'adhérents, à chaque association, d'être quelque part, avoir la responsabilité des autres. Et les autres font confiance, en fait. Donc, j'aimerais dire, c'est un microcosme dans un macrocosme de la France. En fait, il y a cette notion de responsabilité et cette notion de corps. Ça fait que la Fédération du scoutisme français, si je la représente comme un corps au niveau microscopique, parce qu'on a la même chose en France finalement, avec les citoyens, mais vous avez ce corps-là, et chaque élément de ce corps travaille pour le reste du corps. Et chacun a une responsabilité. Ensuite, effectivement, cet été, on a vécu un très beau moment qui est le Roverway. Roverway, c'est la branche des 16-22 ans où on a reçu près de 4000, entre 4000 et 5000 jeunes venant de toute l'Europe pour partager un camp européen, enfin des temps en France du moins, sur une dizaine de jours. Et ensuite, un grand rassemblement de ces 4000 à 5000 jeunes, tout confondu, qui viennent
d'Europe. Pour l'ensemble de la fédération.
Sur l'ensemble de la fédération, effectivement.
Et au niveau européen, parce qu'il y a des scouts qui sont venus de toute l'Europe.
Donc oui, 16-22 ans.
Oui, vous avez évoqué le nombre d'adhérents. Pour les scouts musulmans de France, vous êtes combien, Farid Aitouara?
Au niveau du scout musulman de France, on est présent dans plusieurs régions. On est présent du côté d'Alsace, l'Île-de-France, du côté de Bordeaux, Toulouse qui est un Midi-Pyrénées, qui est un groupe qui est très très actif, où la progression est très importante depuis le début. Il y a Lyon, il y a Cannes, je crois que
Montpellier.
Montpellier aussi. Orléans. Donc il y en a plusieurs, et dans chaque région, il y a plusieurs groupes.
Et du point de vue purement statistique, vous avez une idée ou
oui,
c'est
oui,
fluctuant?
Oui, non, tout à fait. J'aimerais juste préciser, tous nos groupes sont actifs, même si Midi-Pyrénées est très actif, mais en tant que président, je me dois quand même un petit peu d'encourager tous ces bénévoles qui œuvrent chaque jour à s'occuper de jeunes. Statistiquement, on est autour des 500-600 environ, et c'est un mouvement qui, je dirais, donne à être connu. On n'a pas évolué en termes de nombre comme on l'aurait souhaité, parce qu'il y a énormément de bénévoles dans l'association. Très récemment, on a commencé à réaccueillir, si je crée un nouveau mot, à accueillir de nouveau des salariés, de professionnaliser l'association, parce que les bénévoles, bon, à un moment donné aussi, ils s'épuisent. Donc il a fallu qu'on professionnalise l'association, et le développement va arriver très rapidement.
Bien, alors... J'ai dit en début de notre entretien qu'il y a des valeurs partagées par l'ensemble des scouts de par le monde. Il vous arrive, j'imagine, de participer à des jamborées, à des rassemblements internationaux. Et alors, quelle est la spécificité, cette fois-ci, du scoutisme islamique?
Déjà, c'est du scoutisme. Alors, on l'a voulu en trois parties, donc scout, musulman, de France. Donc, l'aspect scoutisme, c'est la valeur qui nous rallie tous autour du scoutisme. Après, la partie musulmane, eh ben, tout est dans la pédagogie des scouts musulmans de France. On s'appuie sur cette spiritualité de l'islam en créant à travers les prophètes de l'islam. On a pris 7 prophètes pour notre pédagogie. On a pris Noé, Adam, Abraham, Jésus, Salomon, Sina Mohammed. On a pris Moïse.
Dans le prophétisme islamique et toute la science des prophètes qu'on appelle la prophétologie, il y a 7 grandes figures de cette chaîne prophétique et vous les avez prises comme des modèles identificatoires.
Tout à fait, comme des modèles dans leurs valeurs, dans ce qu'ils ont en fait laissé comme histoire. Donc on a pris Adam sur l'axe du corps, Noé le sauveur bien sûr, Jésus sur le verbe, le bien agir et l'aspect du langage avec les autres, puisqu'on sait que la langue peut être une arme terrible. Et donc, aiguiser la langue à dire des belles choses et toujours ne pas effrayer son auditoire, comme on dit. Abraham, en tant que père de l'humanité, qui va rassembler un petit peu le tout. Le père des croyants. Et Sina Mohammed, qui est là quelque part pour la noblesse des caractères, qui lui va faire en sorte que ce jeune se redécouvre à travers toutes ses caractères, toutes ses noblesses et toutes les valeurs qu'il aura acquises à travers les autres prophètes également.
Et Moïse.
En fait, il y a deux aspects de Moïse qui nous semblent très importants. Moïse qui a traversé le désert, donc un petit peu, on va dire, comme l'adolescent qui traverse une période très difficile, mais qui, au sortir de l'adolescence, sait qui il est et d'où il vient et vers où il va. Mais c'est également celui qui a mené la loi. Donc il y a des lois, il y a vous avez des droits et des devoirs à respecter. Donc Moïse, c'est celui qui va représenter la loi.
Bien, Farid Aitouara, à travers ces figures des prophètes, Il y a donc une pédagogie, une propédeutique, j'ose même dire, une initiation petit à petit. Et les jeunes scouts, garçons et filles, y sensibles, y voient là une sorte de... d'une prégnance de la spiritualité islamique.
Oui, parce que nous, chez les scouts musulmans de France, on leur apprend ces valeurs-là par l'action. Donc, quand ils sont dans l'action, ils le vivent. On n'est pas là pour faire du prêche. Et quand ils sont dans l'action, ils intègrent plus facilement. Et ils aimeraient bien pas devenir des prophètes, mais ressembler à leur caractère. Et que, comme disait Abdelhak, pour chaque prophète est associé à une tranche d'âge. Donc chaque tranche d'âge correspond à un prophète, et donc on adapte et par l'âge et par la façon d'enseigner cette pédagogie.
Et les âges vont de quelle tranche à quelle autre ?
Donc en fait, les tranches d'âge sont à peu près communes à tous les mouvements scouts, globalement. C'est ce qui permet justement les rassemblements mondiaux, les rassemblements. Donc chez les scouts musulmans de France, on a commencé par les voyageurs qui sont de 7 à 11 ans. Voyageurs parce qu'ils travaillent beaucoup sur l'imaginaire, ils voyagent, ils construisent. Ensuite, vous avez les éclaireurs qui ont entre 11 et 14 ans. Ensuite, vous avez les pionniers qui ont entre 14 et 17 ans. Et viennent les compagnons entre 17 et 21 ans. Un petit peu, ça suit la psychologie du jeune aussi.
Et sa maturation, ça.
Tout à fait, sa maturation.
Donc de la période préadolescente jusqu'à post-adolescente.
Tout à fait.
Bon, là, vous nous avez parlé de la spécificité islamique à travers les prophètes. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'enseignement ? Il y a de la miséricorde, de la bonté, de la mansuétude, du pardon, de la générosité.
Ces valeurs, c'est très difficile à les enseigner finalement. C'est pas par les mots, ça va être
par
les actions.
Et par l'exemple.
Et par l'exemple, par les actions et l'exemple. Effectivement, lorsqu'on va faire tous les jeux qui vont être mis en place, parce que le scoutisme, c'est avant tout le jeu avec l'enfant. Tous les jeux ou les actions qui sont mis en place ont des objectifs pédagogiques. Donc chaque jeu, finalement, va aller vers une direction. La miséricorde ou bien le partage. On a des jeux qui sont collaboratifs. Ça veut dire que si vous ne vous mettez pas avec l'autre, vous n'y arriverez pas, quasiment pas. Donc c'est apprendre aux jeunes de se mettre avec une autre personne ou une tierce personne pour réussir finalement le but du jeu. Donc c'est tout ce genre d'aspect éducatif qui est mis en place.
Il y a donc une veine ludique et de jeu, ça nous l'avons compris, dans le scoutisme d'une manière générale, j'imagine, et d'une manière spécifique donc au scoutisme islamique. Et pour les scouts musulmans de France, il y a là aussi une pédagogie à la fois par l'exemple et par le jeu. Ce qui s'est passé au mois d'août, là récemment, c'était aussi fondé sur le jeu. Décrivez-nous un camp.
Alors, ce qui s'est passé au mois d'août, ce qu'on a appelé le Rover Way. Rover pour la tranche d'âge 16-22 ans, c'est les rovers. Et Way pour le chemin, donc. En fait, l'idée, c'était trois axes. La co-construction, la rencontre, et puis le troisième,
peu importe. Et vous,
c'est le cheminement. Hein.
Mais l'idée, en fait, c'est toujours co-construire avec l'autre. L'autre en tant que partenaire. L'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre, si vous voulez. Toujours cette construction, même si l'autre vient de beaucoup plus loin, d'Europe.
Ou de plus loin encore.
Ou encore plus loin.
C'est-à-dire que formulation « aime ton prochain comme toi-même » devrait être plutôt « aime ton lointain comme toi-même ».
Oui, et ton prochain, quel qu'il soit, en fait. Pas forcément un prochain qui nous ressemble, un prochain musulman ou un prochain arabe ou un prochain... Et donc, là, j'utilisais l'Europe parce que ce rassemblement était européen. Mais effectivement, quand il y a des jamborés qui sont internationaux, qui sont axés sur l'international, c'est aussi beaucoup, beaucoup plus loin. C'est des cultures qu'on ne connaît pas, c'est des langues qu'on ne connaît pas. Mais on doit faire avec, on apprend finalement de l'autre. On apprend de sa culture, on apprend de qui il est, on apprend aussi qui on est finalement, parce que l'autre nous interroge.
Vous n'êtes pas dans la logique que j'aime ma fille plutôt que ma cousine, et ma cousine plutôt que ma voisine, et ma voisine plutôt qu'une étrangère.
Non, pas du tout, parce que tous les jeunes sont les nôtres.
Bien, et que cette notion d'altérité, elle est constitutive justement de la vie, sociale, et même elle est inhérente à l'identité de chacun, puisqu'on ne peut pas vivre tout seul. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de scoutisme, de jeunesse, de scoutisme islamique, avec à la fois le président du mouvement, le mouvement des scouts musulmans de France, Abdelhak Sahli, et le chargé de communication, Farid Aitouab. Alors, le fondateur des scouts musulmans de France est le Cheikh Khaled Ben Tounes. Comment l'idée est-elle venue? Comment pouvait en témoigner Farid Aitouab?
Tout à l'heure, on parlait du scoutisme musulman algérien. Donc lui, il a vécu aussi en Algérie au début de sa vie. Donc il était imprégné justement par ce scoutisme algérien qu'il a vu naître, qu'il a vu aussi dans l'action, que ce soit avant 62 ou après 62. Donc il était dans l'action. Et donc l'idée principale, elle est venue de là. Et après, quand en 90, avec la première guerre d'Irak. Donc il a vu la jeunesse déjà depuis à cette période-là où elle allait. Donc il s'est dit il faut faire quelque chose pour la jeunesse, et le scoutisme est le meilleur moyen d'éduquer cette jeunesse française, parce qu'il s'est intéressé à la France.
Alors vous voulez dire déjà dès 1990-91, il y a le mot, chez les linguistes, est un mot valise. La radicalisation, donc le début de la radicalisation remontait déjà à ce moment-là?
À ce moment-là, tout à fait. Il le voyait déjà. On voyait les jeunes, justement, qui se rebellaient par rapport à ce qui se passait en Irak, en Palestine. Et donc, on le voyait déjà à cette période-là, tout à fait.
Et donc, son initiative de fonder un scoutisme de facture spirituelle imprégnée des valeurs du soufisme notamment, était pour lui, et maintenant pour vous, l'antidote contre la radicalisation. Abdelhak Sahli, oui.
Ce terme de radicalisation, en fait, est très connoté aujourd'hui. Moi, je préfère dire que c'est un mouvement de prévention. On est dans la prévention. Le scoutisme a toujours été...
Donc la prévention contre la radicalisation, c'est la contre déradicalisation.
Contre la radicalisation, ou comme toute forme de dérive, en fait. Lorsque le Cheikh Ben Tounes a créé les scouts musulmans de France, il avait eu cette parole, il disait « Je ne souhaite pas faire de ces jeunes de bons petits musulmans, je souhaite qu'ils soient des jeunes libres, responsables, citoyens, des hommes et des femmes droits, véridique. Et en fait, c'est tout à fait le travail du scoutisme. Donc c'est vers là qu'on s'engage et c'est vers là qu'on va. La spiritualité, effectivement, elle est un petit peu, je sais pas, si on prend l'image du thé, le sucre dans le thé, finalement. On a ce thé qui a un goût sucré et qu'on aime, et que si on le buvait sans sucre, il serait peut-être un peu amer. Donc cette spiritualité, elle est là quelque part pour donner un goût à cette méthode d'éducation propre au scoutisme musulman, j'entends. Hein.
Oui, n'empêche que certains ont peut-être le goût du thé amer, mais ça c'est un autre débat, bien entendu. Le cheikh Khaled Ben Tounes ne voulait pas faire des bons petits musulmans, mais s'il réussit à faire des petits musulmans bons, ça serait bien. C'est le fait de déplacer l'épithète d'avant à après, ça a beaucoup d'importance. Eu égard à la bonté et à la miséricorde, enseignée aussi dans le scoutisme. Comment ça se passe une journée? Certes, il y a l'aspect ludique et de jeu, mais une journée dans un camp, Farid et toi, Rab, comment ça se passe?
Une journée dans un camp, déjà, il y a une notion qui est très importante dans le scoutisme, c'est la levée du drapeau. Donc, il commence par le lever du drapeau qui se fait dans certains camps, et ça, c'est hyper important. Donc,
chantant la Marseillaise?
En chantant la Marseillaise et en se mettant debout devant le drapeau. Et après, il y a des temps, la journée elle est ponctuée par des temps en spi, où le jeune il est là pour poser les questions. Donc nous, on n'oblige pas le jeune à faire la prière, ou on n'a pas à la faire, à porter le voile ou pas le porter, mais l'aumônier il est là pour répondre aux questions des jeunes, parce qu'il se pose beaucoup de questions. Des fois, il a des réponses qui peuvent l'aider. Donc, il y a cette partie-là. Et après, il y a la partie jeu, la partie exploration. Ensuite, il y a aussi le soir le conseil de maîtrise où on fait le point sur la journée pour voir ce qui ne va pas, pour essayer d'améliorer, pour toujours s'améliorer pour la journée du lendemain.
Qu'est-ce que c'est qu'un temps spi? C'est un temps de pratique spirituelle.
Spirituel, voilà. Nous, en termes scout, on dit spi, mais spirituel, tout à fait.
Bien, vous parlez en apocope, c'est-à-dire le fait de couper la fin du mot, mais nous l'avons compris. Où est-ce que vous avez vos différents camps, Abdelhak Sahli?
Alors, les différents camps peuvent être à n'importe où en France. Enfin, il suffit d'avoir un lieu qui répond à une réglementation, hein.
C'est en forêt, en bord de l'eau.
Ça peut être en forêt, en bord de l'eau, non, très rarement, parce qu'il y a aussi les
normes de sécurité.
Les normes de sécurité, tout à fait. Il faut qu'il y ait tout ce qui est des sanitaires, pas trop loin, etc. Mais on essaye toujours d'emmener le jeune en dehors du lieu qu'il connaît, pour le faire voyager.
Garçon et fille.
Garçon et fille, tout à fait. Hein. C'est un mouvement qui est mixte, hein,
dès le départ,
qui s'est voulu mixte et qui le restera en tout cas. Et donc, on essaye d'emmener ces jeunes, finalement, dans la nature au moins dans la nature, sur les camps. Parce que la nature, quelque part, c'est un lieu de découverte et d'apprentissage par le biomimétisme déjà, mais également pour se couper de son quotidien, se couper de ses tablettes, de son téléphone, de quelque part se retrouver, se recentrer avec la terre.
Vous parvenez à sevrer les jeunes gens et les jeunes demoiselles de leur...
Pas toujours, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il est intéressant... Bon, parfois on a les jeunes qui ramènent leur téléphone, leur tablette, mais au bout d'un temps, allez brancher votre tablette sur un arbre et on verra si elle va se recharger. Mais c'est pour ça que le travail avec la famille, les parents, est très important dans le scoutisme. Parce que toute l'éducation qui est faite en camp ou dans les temps scouts... il faut qu'il soit suivi de l'autre côté à la maison, qui permette cette complémentarité en fait entre la famille et les scouts.
Que vous disent les parents quand ils vous confient leurs enfants? Je vous le donne, prenez-le en charge, ou il y a déjà une préparation à la fois psychologique et éducative en amont?
Oui, parce que en fait, le scoutisme, c'est pas du loisir, c'est pas uniquement l'été. C'est tout au long de l'année. Donc il y a vraiment une relation qui se noue avec les familles, avec les parents, beaucoup plus avec la mère souvent. C'est ce côté-là maternel qu'on retrouve tout le temps, hein, qui est même si les pères sont présents, hein, je ne dis pas. Mais la mère est souvent plus présente lorsqu'elle nous confie son enfant, effectivement, en début d'année, puisqu'on le prend toute l'année, l'enfant. Elle participe parfois. Les parents participent parfois en tant que bénévoles, viennent donner un coup de main pour préparer des gâteaux, pour accompagner les jeunes. Donc il y a cette relation qui se fait entre la famille et le mouvement scout déjà, qui est très important. Donc ça rassure finalement de savoir où on met son enfant. Et on essaye de rendre l'enfant, bien sûr, en meilleure santé que lorsqu'il nous a été confié.
Et sa santé est à la fois physique et morale.
Et morale, tout à fait. Santé complète.
Bien, j'ai compris donc que la prise en charge éducative est d'abord celle de la mère, il y a l'instinct maternel, le père étant présent bien entendu. Ce biomimétisme, pour emprunter votre mot, si je le comprends dans son étymologie, c'est d'imiter la nature, la vie. Comment ça se passe ?
Eh bien, c'est-à-dire de comprendre finalement le cycle naturel de la nature. On a eu plusieurs séminaires, en tout cas les chefs, les responsables scouts, on a eu des séminaires avec Günther Pauli. Günther Pauli qui a été donc le parrain aussi de l'association et qui a finalement refait tout un travail autour de fables contées pour les enfants, sur cet aspect de cycle naturel de la vie. Lorsque les oiseaux viennent picorer des fruits sur l'arbre et que la fiente tombe au pied de l'arbre et l'arbre récupère justement tous les fientes, etc., et que ça repart dans un cercle, c'est pour dire que chaque chose est utile en fait, chaque chose. Et ne coupons pas à aucun niveau ce cycle-là. Et également pour le jeune. Il fait partie d'un cycle parce qu'également, il va aller chercher le fruit. Il va donc, à travers ça, lui dire qu'il faut éviter au maximum les engrais, tout ce qui est additif, le naturel. Et donc, c'est quelque part construire aussi sur du très long terme.
Et tout, pareil pour le cycle de l'eau, j'imagine, qui est un classique.
Également le cycle de l'eau qui est la vie. Hein.
Et qui est une ressource primordiale.
Donc, pas de gaspillage. Donc, quand l'enfant retourne chez lui et que c'est l'enfant qui dit à la mère ou au père « ferme l'eau, le gaspille pas », donc, tout de suite, on a gagné notre pari de l'éducation du jeûne.
Alors, qu'est-ce que vous faites durant les périodes particulières, celles du jeûne, du mois de Ramadan? Nous en avons connu, là, pour l'édition précédente, si je puis dire, un mois relativement long, éprouvant, par une période caniculaire, les jeunes pourraient être exemptés de jeûner. Comment de jeûner avec un accent circonflexe cette fois-ci? Est-ce qu'il y a là un accompagnement spirituel? Vous avez parlé, Farida et Touareb, de la présence d'un aumônier.
Oui, pendant le Ramadan, c'est plus une période creuse, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas d'activité, sauf certaines activités d'accompagnement, comme avec la Chorba pour tous dans la région parisienne, où les jeunes interviennent pour une action de service. Mais sinon, c'est une période où les jeunes restent plus chez eux, avec la famille. Et justement, pendant la précédente au mois de juin, on a eu le plaisir de recevoir le ministre de la Jeunesse et Sport, qui est venu justement partager avec les jeunes scouts musulmans de France un iftar, un repas rupture du jeûne. Et donc les jeunes, ils étaient très ravis de cette marque de reconnaissance, et il a parlé justement dans son discours de tout ce que le scoutisme musulman donne à la jeunesse française, et pendant 25 ans, parce que ça fait 25 ans que nous existons, et nous fêtons cette année nos 25 ans.
Oui, 25 années, un quart de siècle, c'est encore la jeunesse pour une vie humaine. Pour un mouvement tel que le vôtre, on est encore en phase peut-être de consolidation, Abdelhak Sahli, puisque vous le prévoyez éternel.
Oui, oui, j'espère qu'il le sera, en tout cas, parce que c'est un mouvement à titre personnel qui m'a énormément apporté et qui a permis de rencontrer énormément de monde, de créer des liens très très forts avec des personnes et quelque part se redécouvrir soi-même par le questionnement des autres et si ce qu'on fait est vraiment, est-ce qu'on est vraiment en cohérence avec qui on est, est-ce qu'on dit, est-ce qu'on fait au final, notre engagement. Donc ces 25 ans, on les a fêtés le 15 janvier dernier au Collège des Bernardins. Vous voyez, on aurait pu très bien choisir un autre lieu. On a choisi le Collège des Bernardins, un haut lieu de réflexion, un haut lieu où il y a eu énormément de choses qui en sont sorties. Et c'est toujours vers là que se dirigent les scouts musulmans de France, et vers quelque part, c'est dans l'inattendu, en fait. Jamais quelque chose de tracé, toujours dans la réflexion, dans la création, dans l'imagination, dans... Et c'est vers là qu'on veut emmener nos jeunes aussi, à travers ces exemples-là. Donc ces 25 ans ont permis de faire le point avec l'association. Est-ce que depuis 25 ans, les scouts musulmans de France remplissent leur mission? Et le thème abordé, c'était la promesse. La promesse faite aux enfants, la promesse faite à la famille et la promesse faite à la société française. Lorsque les scouts musulmans de France éduquent les jeunes, qu'est-ce qu'on leur promet à ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Comment on les aide à devenir qui ils seront? Par rapport à la famille, lorsque la famille nous confie leur enfant, comment on va leur rendre? Qu'est-ce qu'on fera de leurs enfants? Et la société française, quel citoyen on va construire finalement pour cette société? Et c'est tout le pari qu'on a voulu sur cette journée, c'est faire rencontrer aussi bien des responsables scouts, mais également des penseurs, des partenaires, des parrains, des amis, des gens qui nous connaissent depuis de longue date, sur justement faire une rétrospective et finalement construire également l'avenir, les prochaines années, vers où on souhaite se diriger et avec quel pari, puisque le temps change, les mondes évoluent. Et c'est ce qu'on a rencontré en fait les années précédentes avec les événements tragiques hein, qu'on a connus. Hein, on sait bien, on a dû se re-questionner comment on répond aussi à cette demande d'engagement de ces jeunes. Tout est là en fait. C'est le jeune, lorsqu'il s'engage dans une voie, qu'elle soit positive, comme on l'entend, ou négative, c'est une question d'engagement. C'est une question d'une proposition qui lui a été faite.
Et donc, si je reviens au triptyque qui est le vôtre, fondé sur la promesse pour l'enfant, la promesse pour la famille et la promesse pour la société, c'est de faire de l'enfant quelqu'un de saint d'esprit et de corps. Vous le restituez, j'ai cru comprendre, en meilleure santé morale et physique à la famille. Et pour la société française, c'est d'en faire un citoyen engagé, œuvrant pour le bien commun.
Tout à fait, un citoyen à part entière et non à part. Un citoyen qui va, comme le terme le dit, hein, qui va être bien dans sa cité, qui va améliorer sa cité, cité au sens noble du terme, qui va faire en sorte que autour de lui tout va bien, déjà chez lui, pour ses voisins, pour la ville, pour l'immeuble, pour la maison, le quartier, enfin, et en allant crescendo comme ça, tout autour de lui, et faire de sa ville, donc de sa région, de son pays, un lieu où on aime à vivre.
Et avec l'amour de la patrie.
Et avec un amour de là où il vit, là où il est. Et surtout, qu'il soit utile, surtout. Qu'il soit et qu'il se sente utile.
C'est-à-dire qu'il y a une éthique de l'engagement, mais aussi une approche, je ne dirais pas utilitariste, mais en tout cas, d'être au service d'eux.
Oui, oui. Parce que, en fait, le plus important, quelque part, c'est de se sentir utile. La pire des choses, je crois, pour un être humain, c'est de se sentir inutile. Et donc, on a besoin de revendiquer quelque chose. Donc, si on se sent utile à un moment donné, on a gagné tous ensemble.
L'oisivité étant la mère de tous les vices, vous les occupez. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas, je pose la question, des ateliers d'alphabétisation, de soutien scolaire, des choses comme ça, d'actions de cet ordre ou pas?
Alors,
oui.
Ce qui est intéressant, c'est que chaque groupe scout, Farid en évoquait les lieux, ont des programmes entre guillemets communs, ont un projet, en tout cas projet éducatif, qui est celui de l'association, et des programmes pédagogiques qui souvent se rassemblent, mais qui permettent également, il y a une certaine liberté qui permet à chaque groupe de créer de l'activité. Donc selon le groupe dans lequel vous aurez ce type d'activité, de l'alphabétisation, de l'aide aux devoirs. Et c'est aussi ce qui me fait dire quelque part que on souhaite aussi montrer finalement aux familles, lorsqu'elles nous confient leurs enfants, que les résultats scolaires augmentent. On a publié sur notre page Facebook très récemment les résultats du bac, par exemple. Et plusieurs de nos jeunes ont eu leur bac avec mention très bien. Donc c'est aussi pousser le jeune à se dépasser sur le plan du scolaire. Et si c'est pas sur le plan du scolaire, en tout cas, le motiver pour qu'il y arrive.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, questions au pluriel, et aujourd'hui tout particulièrement nous parlons des scouts musulmans de France avec à la fois le président de ce mouvement, le président Abdelhak Sahli, président des scouts musulmans de France, et aussi en compagnie de Farid Aïtou Arab qui est chargé de communication. Dernière partie de notre entretien, si vous voulez bien, nous le consacrerons au dialogue interreligieux et aussi au dialogue sous la voûte commune de la laïcité avec l'ensemble des composantes de la nation. Qu'est-ce que vous faites en ce qui concerne les rencontres avec les autres sensibilités du scoutisme français et notamment ceux qui sont d'obédience religieuse ou spirituelle? Abdelhak Sahli, y a-t-il des moments de rencontres, de débats, d'échanges avec les scouts catholiques ou les éclaireurs israélites de France, par exemple?
Effectivement, la spiritualité est une question qui est très abordée au sein de la Fédération du scoutisme français. Je ne vous cache pas que parfois elle est délicate, parce que nous avons un membre de l'association qui ne se revendique pas d'une tradition en particulier. Donc, il y a toujours la difficulté de mettre des mots. C'est pour ça qu'au début de l'émission, je parlais de microcosme, finalement, dans un macrocosme. Parce que c'est une petite société, finalement, où il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ont décidé de ne pas croire, il y a ceux qui parlent de spiritualité. Et donc, tout est dans les mots, la difficulté dans les mots. Et pourtant, on vit des choses parfois similaires. Donc, avec les traditions, avec les scouts d'obédience catholique, juive, protestante, bouddhiste, c'est toujours plus facile, c'est toujours plus simple, parce qu'on a des actions, la lumière de Bethléem, on a... Après, le défi, parce que ce n'est pas une difficulté, parce qu'on ne se regroupe pas autour de la religion, on se regroupe autour du scoutisme. Mais le défi, quelque part, c'est de permettre à chacun de vivre sa spiritualité, donc comme la laïcité, finalement. Donc voilà.
Sauf que la laïcité n'est peut-être pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion.
Ce n'est pas une religion, mais ça permet quand même à chacun de vivre sa tradition en toute liberté, sans prosélytisme.
Alors, Abdelhak Sahli, vous avez tout à fait raison, et on pourra même enlever le « quand même ». Elle permet, c'est un cadre juridique, sans épaisseur idéologique, qui permet de croire, de ne pas croire, de changer même de croyance s'il le faut. Farid Aïtou Arab voulait ajouter.
Oui, je voulais rajouter quelque chose justement par rapport à votre question. Nous, on organise depuis plusieurs années, je crois que depuis 17 ans maintenant, la tente d'Abraham. La tente d'Abraham, donc symboliquement, c'est une tente qui est ouverte aux quatre vents, c'est-à-dire tout le monde peut rentrer et discuter. Et donc, c'est chaque année, on choisit un thème en relation, bien sûr, avec la jeunesse, soit sur la femme, soit sur l'environnement. Et on invite plusieurs personnalités, religieuses et non religieuses. Il y a des rabbins qui viennent, il y a des politiques qui viennent discuter sur le sujet, et donc ça a beaucoup de succès. Et au-delà du scoutisme, on organise aussi d'autres événements comme la Flamme de l'Espoir, qui est un tour de France dans plusieurs villes.
Tour de France de la fraternité.
De la fraternité, où il y a eu des partenaires scouts, bien sûr, plus des dizaines d'associations, de partenaires sur toute la France. Et le principe, c'est un bus qui fait le tour de France. Et l'idée est venue en 2006 du bus qui a brûlé à Marseille, avec une femme à l'intérieur. Donc on voulait transformer ce bus de la terreur, ce bus du désespoir, en un bus d'espoir. Donc c'est un bus. Et pour le symboliser le feu, on a eu le flambeau du comité olympique des Jeux d'Athènes, qui nous ont prêté le flambeau olympique. Et on a fait le tour de France, où il y a eu des événements dans les principales places de toutes les villes, à Bordeaux, au Capitole, à Toulouse, avec un grand final à Paris. Et dans chaque ville, il y a eu la spécificité aussi du scoutisme musulman, c'est de donner la parole aux jeunes. Parce que les jeunes en France, ils disent qu'on ne donne pas la parole aux jeunes. Et nous, on leur donne la parole et on les met en face. En face, dans chaque ville, ils parlent avec les politiques. On invite dans chaque ville, soit on va dans la mairie, soit les politiques qui viennent dans les quartiers pour discuter avec les jeunes. Et on invite toutes que ce soit la droite, la gauche, l'extrême droite, on invite tout le monde ou l'extrême gauche. Tout le monde est là pour discuter avec des jeunes. Et il y a eu des débats très, très, très animés, très intéressants.
Animé, mais pas virulent.
Non, animé dans l'animation, animé très très intéressant et très productif. Et tout à l'heure, vous posez aussi la question par rapport, Abdelhak parlait de scouts musulmans de France. Pour la partie France, c'est la citoyenneté. Et donc, les jeunes, pour leur faire sentir, il faut qu'ils se sentent bien dans la cité avec un grand C, dans le pays dans lequel...
La police avec S à la fin.
Voilà, voilà. Et donc, il y a eu un partenariat avec l'établissement français du sang, où les jeunes, ils donnent le sang. Parce que avant de donner le sang, il y a eu les commémorations en mort. Donc il y a eu dans chaque ville avec les anciens combattants où il y a eu des commémorations en mort. Donc on va dans les cimetières où ils voient des Mohamed, des Sylvain, des. Donc,
c'est au moment de la Toussaint.
Non, pendant la flamme de l'espoir. Pendant la flamme de l'espoir, c'était spécifique où il y avait des jeunes, des anciens combattants avec des jeunes scouts qui se tiennent la main, qui chantent la Marseillaise. On voit les anciens combattants pleurer de joie parce que ils se disent, par rapport à l'image qu'on a dans les médias des jeunes qui sifflent la Marseillaise, nous, ils la chantent et ils la chantent avec les anciens combattants. Et donc, voici les actions que nous faisons aussi.
Pour revenir simplement sur un aspect, vous avez mis le doigt sur la difficulté du dialogue interreligieux et notamment avec ceux qui n'ont pas une croyance. Et comment faites-vous avec les bouddhistes qui ne reconnaissent pas ce qu'on dit, ce qu'on appelle une transcendance personnelle, donc pas en Dieu, ils ne reconnaissent pas Dieu. La rencontre se fait sur des valeurs spirituelles ou sur simplement les valeurs du scoutisme?
Alors j'aime assez votre exemple parce que nous avons fait vivre un camp jumelé, donc Vie Mon Camp, entre des jeunes scouts musulmans de France et des éclaireurs de la nature qui étaient bouddhistes. C'était il y a à peu près un an. Et en fait, nos jeunes disaient, mais c'est ça le bouddhisme. Moi, je croyais que c'était être détendu et tout simplement. Et donc...
La zen attitude.
Et donc, en fait, ils ont découvert ce qu'est le bouddhisme directement en regardant l'autre. Et même chose pour les jeunes qui se... des éclaireurs de la nature, donc du mouvement bouddhiste, qui demandaient à nos jeunes, mais si je parle pas l'arabe, est-ce que je peux faire la prière? Tout ce genre de choses, enfin tous ces questionnements, donc déjà qui questionnent le jeune lui-même, finalement, et qui permettent un questionnement apaisé, un échange apaisé.
De par le contact et de par la vie commune.
De par le contact, et parce que le scoutisme rassemble autour de cette valeur-là, et donc on échange après autour de toutes les valeurs.
Mais combien de temps dure un camp du genre Vie Mon Camp?
Alors tout dépend, c'est au choix je dirais des groupes, ça peut être sur 2 journées, ça peut être sur 1 semaine, ça peut être le maximum je dirais ça va être 1 semaine. Mais ça peut être beaucoup plus court, ça peut être lorsque vous avez 2 camps de groupes scouts qui sont pas très loin et qui se disent sur 2 jours on va venir chez vous, vous allez venir chez nous, peu importe.
Parce que le calcul est de cette période-là est fondé sur ce que d'aucuns appellent la limite de la sociabilité ou il y a d'autres considérations qui entrent en jeu?
Il y a la considération, tout dépend de l'âge de l'enfant aussi.
Et de la logistique.
Et de la logistique, et parce que souvent c'est des bénévoles, encore une fois, qui prennent sur leur temps de congé. Donc il faut aussi qu'ils puissent, qu'on puisse leur permettre du moins de prendre leur congé également. Donc il y a tous ces calculs-là qui se font.
Bien. Pour le temps qui nous reste, j'aimerais qu'on nous revenions ensemble sur l'investissement dans la société. Qu'est-ce qui est fait, en dehors de cet engagement des citoyens, pour aider à laisser place davantage sans naïveté obtuse, à plus de fraternité, de solidarité entre les membres et les franges de la société française, en dehors de la flamme de l'espoir ou tout autre engagement, Farida et Touara?
Il y a beaucoup d'actions. Par exemple, quand il y a eu ce qui s'est passé le mois de janvier de l'année passée, il y a eu les attentats où il y avait une centaine de scouts de toute la fédération qui ont marché avec tous les citoyens français. Donc il y a des actions symboliques aussi où on est présent. À Toulouse aussi, quand il y a eu l'affaire Mera aussi, au premier rang, on voyait les scouts musulmans et les éclaireurs israélites. Donc il y a des actions comme ça, il y a beaucoup d'actions comme ça qui se font régulièrement.
Il y a des temps, j'aimerais rajouter, il y a des temps également, fait, c'est découvrir aussi le pays dans lequel on vit. C'est participer aux grands rassemblements nationaux, le 18 juin, l'appel du 18 juin, par exemple, où des scouts étaient présents à la commémoration au Mont-Valérien, par exemple. C'est faire découvrir aussi l'Assemblée nationale aux jeunes, découvrir le lieu où ils vivent, comment fonctionne finalement le pays, le système politique de leur pays, etc. Leur faire prendre conscience qu'ils sont membres de ce corps, finalement. C'est surtout ça, au-delà des actions, je dirais, du jeu de scoutisme. Farid, tout à l'heure, parlait de la flamme de l'espoir citoyen. Il y a eu aussi le ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l'arc. L'avenue des Champs-Élysées fermée pour l'occasion. C'est des centaines de jeunes musulmans, des scouts musulmans de France qui montent, qui vont faire le ravivage de la flamme. Et je me souviens une parole de la personne qui était là qui dit « Cette flamme, le ravivage de cette flamme, c'est le ravivage de cette flamme de l'espoir aujourd'hui pour lui. » Et donc, c'est toutes ces actions-là, ces petites actions qui font, comme on dit, les petites gouttes d'eau qui font les grandes mers. Donc, c'est vraiment...
Parce que si ces gouttes d'eau-là n'existaient pas, elles auraient manqué à la mer.
Tout à fait. Mais c'est essayer de faire, en tout cas, nous, notre travail, d'éduquer à cette citoyenneté, j'aimerais dire vivante, partager et apaiser avec l'autre, se découvrir les uns les autres, se connaître les uns les autres, ne plus avoir peur l'un de l'autre et surtout effacer toutes les ignorances possibles. Donc c'est sur ce travail qu'on essaye de mener aujourd'hui avec nos petits bouts de ficelle quelque part. Donc ça, j'aimerais le préciser, ça fait 25 ans qu'on œuvre. On n'est pas financé par un pays tiers. Les financements viennent des ministères jeunesse et sport, de la ville, du conseil régional. À minima, en tout cas, on a très peu été vers un financement privé jusqu'à aujourd'hui, mais on en a besoin aujourd'hui. Mais il reste, en tout cas, transparent. Ça, c'est important parce que lorsque vous êtes financé par un pays tiers ou une organisation tiers, souvent c'est eux qui dirigent. Et nous, on a voulu aussi cette liberté d'action à travers... Mais c'est difficile.
Bien entendu.
C'est difficile.
Surtout qu'on a eu des propositions de l'extérieur, beaucoup d'argent, mais on a refusé parce qu'on voulait notre liberté.
Bien entendu, partant de l'idée que celui qui rémunère l'orchestre choisit la musique.
Tout à fait.
Et vous voulez faire votre propre musique, une belle symphonie. Les belles symphonies restent inachevées, comme on dit, donc une œuvre humaine est toujours perfectible. Nous approchons du terme de notre émission. Merci infiniment. Merci à Abdelhak Sahli.
Merci Ghaleb.
Vous qui êtes président des scouts musulmans de France. Merci Farid.
Merci Ghaleb.
C'était Question d'Islam sur France Culture. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des livres et des musiques sur franceculture.fr. L'attaché d'émission est toujours Dominique Campetissa. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Éric Boissé et le réalisateur est toujours notre ami Franck Lilin. Thank you.
Thank you.